Radio Kapi.
Le journal, présenté par Lévin Mbwinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Au sommaire de ce journal, intensification des combats entre FRDC et rebelles du M23 dans le sud du territoire de Lubero. Cela deux jours après le raté de la tripartite RDC-Rwanda-Angola à Luanda et Matembe, localité à 60 km de Lubero centre dans le Nord Kivu, est désormais sous occupation rebelle. La 46e édition de la Foire internationale, bientôt une réalité à Kinshasa. Le ministre du Commerce extérieur était sur place. Mission de Julien Paloukou, inspecter les travaux d'aménagement du site avant l'ouverture de cette foire, appelée désormais Foire internationale du Congo-Kinshasa. Sachez que notre invité est Mahamadou Tangara, chef de l'unité appui, conseil de la coordination réforme de la section du développement de la composante police MONUSCO. Il révèle que grâce à l'appui considérable de la composante police des Nations Unies, la police nationale congolaise fonctionne désormais selon les standards et normes internationales. Nous allons l'entendre dans ce journal. Encore une fois, bonjour. L'actualité, c'est d'abord ces armes qui continuent désormais de parler dans le sud du territoire de Lubero, deux jours après l'annulation de la tripartite entre les présidents congolais Félix Tshisekedi, rwandais Paul Kagame et angolais João Lourenço. En tout cas, les combats se sont intensifiés entre FRDC et rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Les rebelles ont en effet poursuivi hier lundi leur offensive contre les positions de l'armée. Martial Papimukeba pour les détails.
Jusqu'à la tombée de la nuit, ce lundi, des violents combats se poursuivaient entre les FRDC et les M23. Aux environs de 11h, les rebelles ont attaqué les positions des FRDC situées à environ 2 km de Matembe. C'est là que l'armée s'était repliée dimanche après avoir abandonné la localité de Matembe, désormais sous occupation rebelle et située à environ 60 km au sud de Lubero centre. Des violents combats font rage dans la zone et jusqu'à ce lundi soir, il était difficile de déterminer l'évolution des lignes de défense des différentes parties. Toutefois, le colonel Anle Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, rassure que la situation est sous contrôle des FRDC.
À cette population d'avoir confiance à nos forces de défense et de sécurité. Ce n'est plus un problème d'une seule personne ou de l'armée ou seulement de la présidence ou du premier ministre. Non, c'est l'affaire de tout le monde. La situation est maîtrisée. Nous devons avoir confiance à notre armée qui se comporte très 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 bien sur le théâtre des opérations.
Des sources locales évoquent un renforcement en hommes et matériel des rebelles, signala un risque élevé d'intensification des combats dans la zone. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Pendant ce temps, un calme précaire a été observé hier lundi dans l'agglomération de Bouléoussa, toujours dans le Nord Kivu. Ce, après une journée de panique dimanche à la suite des affrontements violents dans la zone entre armée congolaise et rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Des obus sont tombés dans cette cité du territoire de Walikale, causant des dégâts matériels et humains. Et pour retour sur la tripartite ratée de Luanda, vous le savez, ce rendez-vous tant attendu entre les présidents congolais Félix Tshisekedi, rwandais Paul Kagame et angolais João Lourenço, prévu dimanche en Angola pour tenter de résoudre la crise dans l'est de la RDC, n'a finalement pas eu lieu. En cause, l'incapacité de la RDC du Rwanda à s'accorder sur un engagement en faveur des pourparlers directs entre Kinshasa et la rébellion du M23, une condition exigée par Kigali, mais fermement rejeté par Kinshasa. En réaction, le ministère angolais des Affaires étrangères exprime le regret du président angolais, facilitateur désigné par l'Union africaine pour cette crise. Dans un communiqué, la même source affirme que João Lourenço se dit profondément préoccupé par cette situation. Il exhorte les partis à prioriser l'intérêt de leur peuple ainsi que leurs objectifs communs. Venons à présent à ces dramatiques révélations de la cartographie des crimes graves commis au sud Kivu. 191 incidents constituant des crimes graves contre la population civile du Sud Kivu ont été commis entre 1994 et 2024. C'est le contenu du rapport de recherche documentaire sur les crimes graves commis dans cette province présenté et remis hier lundi à Kinshasa au Fonds national de répartition des victimes Fonarev par le groupe de travail sur la justice transitionnelle au Sud Kivu. Ce rapport est l'œuvre des organisations de la société civile qui s'intéressent à la question de justice transitionnelle soutenue par Trial International et l'ambassade britannique en RDC. Tout de suite, les explications du coordinateur d'initiative congolaise pour la justice et la paix, Raphaël Wakeng Ngimbi, est au micro de Grâce Hamzati.
Sur le plan géographique, de ces 8 territoires, la plupart des cas qui ont été répertoriés viennent de 2 territoires, le territoire de Calais et le territoire de Mwenga. Donc 23% pour Calais et 25% pour le territoire de Mwenga. Cela ne signifie pas qu'on a minimisé les autres territoires. S'agissant des présumés auteurs, la tendance présente que ce sont les groupes armés non étatique qui était le plus auteur des incidents que nous avons répertoriés, suivi par les services étatiques. Nous avons trouvé qu'une large majorité des cas répertoriés n'ont pas encore connu d'issue judiciaire finale. Un nombre important d'incidents n'a pas été l'objet d'une dénonciation en justice. Dans un bon nombre de cas, des dénonciations en justice ont été soumises, mais aucune procédure judiciaire n'a été diligentée.
Sachez que ce groupe de travail recommande à la justice de s'approprier les résultats de ce rapport de recherche pour initier des enquêtes judiciaires et renforcer les actions de la justice en faveur des victimes et des témoins des crimes de masse dans la province du Sud Kivu. Peut-être la fin du conflit entre les communautés de Kisangani, particulièrement Mbole et les Lingola. En tout cas, une table ronde pour la paix et le vivre ensemble censé réconcilier ces peuples s'ouvre ce mardi. Ce forum est initié et placé sous le haut patronage du président Félix Tshisekedi et organisé par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le Fonarev. Des communautés ethniques, les chefs coutumiers, la société civile, les leaders religieux de la province, les autorités politico-administratives et autres y sont attendus. Ils vont échanger pendant 3 jours, soit du 17 au 19 décembre courant. Objectif, examiner les causes du conflit communautaire à la base de plusieurs centaines de morts et de milliers de déplacés, avant d'envisager les mesures visant à rétablir la confiance, la cohésion et la concorde pour une vie paisible et le retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Des explications avec Jacques Moukonkolé.
C'est en octobre 2022 qu'éclate un conflit sanglant entre les Mbole et les Lingola. Des sources de la société civile rapportent plus de 800 morts et plus de 10 000 déplacés au plus fort du conflit à partir du début 2023. Des écoles, des maisons d'habitation et autres infrastructures socio-économiques ont été détruites. Parmi les survivants de ces atrocités figurent des personnes amputées de leurs membres. Les déplacés vivent toujours soit dans des familles d'accueil, soit dans les 3 sites à la paroisse Sainte-Marthe, à Saint-Gabriel et au bureau communal de Kisangani. Certains sont contraints à la mendicité, faute de moyens de survie. Tous n'attendent que le retour d'une paix durable dans leur milieu afin de vivre des produits de leur champ. Ce forum intervient au lendemain de l'annulation par la ministre des Affaires foncières des contrats de Pape Congo, élément déclencheur de ces conflits sanglants. Il augure un lendemain meilleur et sans violence. Rappelons que la vente irrégulière de plus de 4000 hectares de terre par un des membres de 2 communautés voisines est à l'origine de ces conflits. Les appels au calme des autorités politiques, des leaders sociaux et religieux n'ont jamais réussi à calmer les velléités belliqueuses et à panser les plaies béantes ouvertes par ce conflit. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Nous apprenons aussi qu'à Kisangani, tout le monde espère que ce forum va enfin prendre en compte les désidérata des uns et des autres afin de ramener une paix véritable et durable, susceptible de favoriser la cohésion sociale et le développement socio-économique de cette entité. Ouverture de la 46e édition de la Foire internationale à Kinshasa. Une question de jour, ça sera le 21 décembre prochain. Cette fête foraine va devenir un lieu d'attraction où la RDC pourra se vendre à partir de Kinshasa. Propos du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, est allé sur place hier lundi pour inspecter les travaux d'aménagement du site avant l'ouverture de cette 46e édition de la FIKIN, qui s'appelle d'ailleurs désormais Foire internationale du Congo-Kinshasa, au lieu de Foire internationale de Kinshasa comme avant. Notez aussi que ce grand rendez-vous sera la première du gouvernement sous Minois. On écoute les explications du ministre Julien Paluku dans cet extrait proposé par Pelé Kipelamondo.
Je suis venu pour que je me rende compte des niveaux de préparation de l'édition qui va commencer le 21 décembre 2024 pour se terminer, je crois, autour du 20 janvier 2025. Nous aurons un mois ici pour que le monde entier vienne découvrir que la FIKIN a repris ses activités, la FIKIN a recommencé. Et au mois de juillet, nous allons organiser une autre édition foraine. Et au mois de décembre 2025, on va organiser notre activité foraine et il en sera ainsi, comme ça les Kinois vont s'habituer comme c'était à l'époque le 2 juillet. Et donc voilà la vision du président Félix Antoine Tshisekedi. Faire de Kinshasa un carrefour d'attractions, faire de Kinshasa un centre de rayonnement, faire de Kinshasa en fait les lieux où le monde entier peut se rencontrer et savourer la beauté de Kinshasa, parce que nous sommes aussi la capitale mondiale de la rumba. Donc les gens qui viennent ici devront, au-delà de ce qu'ils peuvent venir rechercher et découvrir, mais ils seront au cœur de la rumba.
Et puis ce cri de détresse du député provincial Jean Kimboko Ndombassi dans le Congo central, et pour cause, il annonce que près de 200 maisons d'habitation se sont écroulées et plusieurs têtes d'érosion se sont créées dans différents quartiers après les dernières pluies torrentielles dans la cité de Moanda. Mais les sinistrés n'ont reçu jusqu'ici aucune assistance et continuent à passer la nuit à la belle étoile. Il appelle ainsi le gouvernement congolais à procéder d'abord au recensement des sinistrés afin de bien canaliser l'assistance. On l'écoute au micro de Nana Plurich Mambo.
Moanda a connu une grande pluie, c'était à 17 ou 8. Au moment où je vous parle, en tout cas, il y a plusieurs sinistrés. Et de nouvelles érosions se sont encore créées. Presque tous les quartiers, toutes les localités sont touchées. Itondembeleka, Vulumba, Pikapende, Malukunga, Kinsiaku, nouvelle cité, Yondika, Nkelekete, Moanda village. La situation est vraiment dramatique. Moanda n'a pas de caniveau collecteur en dehors des érosions de Kenge. Mais aujourd'hui, c'est maîtrisé par les Chinois de Guamping International. Le gouvernement central a débloqué des moyens pour ça. Mais nous sommes dans une terre sablonneuse. C'est pourquoi moindre pluie, il y a de nouvelles érosions qui se créent. Et moindre pluie, c'est aussi une journée chômée et payée. On ne sait pas sortir, on ne sait pas marcher, il y a des flaques d'eau partout. Et nous avons demandé à la province, pas seulement à Moanda, à Mbanzangungu, à Tchela et pourquoi pas Lukula, de recenser les sinistrés. Ils ont droit à une assistance. On commence d'abord par là. Des maisons se sont écroulées. Plusieurs familles sont à la belle étoile. Donc sur le plan social, il y a vraiment un désastre.
Place à présent à cet appel du coordonnateur provincial en charge du programme de la nutrition dans le Maniema. Il recommande aux parents ayant des enfants dont l'âge varie de 6 à 59 mois de bénéficier de la supplémentation à la vitamine A et des parasitages au mébendazole. Docteur Moussa Bikouloubiancé lance cet appel après avoir fait ce triste constat, la faible fréquentation des parents dans ces services en cette période de campagne. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Par rapport aux activités de nutrition, depuis le 1er décembre jusqu'au 31 décembre, les zones de santé sont en train de réaliser les activités par rapport à la supplémentation en vitamine A et des parasitages au mébendazole, ciblant les enfants de 6 à 59 mois. C'est une activité très pertinente. Vous savez que la composante communautaire, c'est une composante un peu complexe, mais les parents viennent de façon timide et c'est pourquoi j'ai dit que c'est une opportunité de lancer encore un appel vibrant auprès des parents de venir avec les enfants au niveau de centre de santé pour bénéficier de la vitamine A. La vitamine A a de l'importance capitale dans l'organisme de l'enfant. Ça les protège contre beaucoup de maladies. Ça renforce l'immunité. Donc, je peux dire la différence de vaccin. Et ici, la vitamine A renforce l'immunité, tandis que le vaccin induit l'immunité de l'enfant. Donc, c'est vraiment une occasion pour que les parents viennent avec leurs enfants, parce que faire supplémenter l'enfant, c'est l'aimer. Faire supplémenter l'enfant, c'est partager avec lui son affection et préparer son avenir.
Les premières tendances de résultats des élections législatives nationales et provinciales organisées dans les circonscriptions électorales de Massimanimba et Yakoma se précisent. La CENI les publie depuis hier lundi. Et depuis dimanche, l'Assemblée plénière reçoit les résultats de différents bureaux de vote. Et selon le rapporteur de la CENI, les dispositions sont prises pour la transition rapide, pour la transmission rapide, voulais-je dire, et sécurisée de ces résultats. Pour sa part, la société civile à Massimanimba dit regretter le faible taux de participation à ces législatives. Des détails avec Blaise Makassi, notre envoyé spécial à Massimanimba.
Si les élections se sont déroulées dans le calme et les électeurs saluent les mesures prises par la CENI pour rendre plus transparent ces processus, la société civile reste préoccupée par le faible taux de participation. S'appuyant sur les résultats, mais aussi sur les taux de participation affichés devant les bureaux de vote, Olivier Mbangala, de la société civile de la cité de Massimanimba, estime que l'absence de nombreuses personnes sur les listes électorales a découragé beaucoup d'électeurs.
Nous avons observé un faible taux de participation de l'électeur dans tous les centres du territoire de Massimanimba. Cela est dit en rapport avec l'exigence des duplicata d'abord dans certains centres, mais aussi un bon nombre d'électeurs qui ont obtenu les duplicata dont leurs noms ne se sont pas figurés dans les listes de margement.
Réagissant à ces propos, le directeur de la communication de la CENI, Jean-Baptiste Titipo, estime qu'il est très tôt de parler d'un faible taux de participation. Il recommande à la société civile d'attendre la fin des compilations et les taux de participation que publiera la CENI. Pour ces élections, ici à Massimanimba, la CENI a fait fonctionner 240 centres de vote et 768 bureaux de vote. Pour les 5 sièges à pourvoir à la députation nationale, 302 candidats sont en course et 571 pour les 8 sièges des législatives provinciales. Depuis Massimanimba, Blaise Makassi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nouveau drame aux États-Unis, régulièrement endeuillé par les tueries en milieu scolaire. Une adolescente a ouvert le feu lundi 16 décembre dans son école à Madison, dans le nord du pays, tuant 2 personnes et faisant plusieurs blessés avant d'être retrouvée morte selon les autorités.
L'invité.
Grâce à l'appui considérable de la composante police des Nations Unies, UNPOL, la police nationale congolaise fonctionne désormais selon les standards et normes internationales. C'est ce que révèle Mahamadou Tangara, chef de l'unité appui, conseil de la coordination réforme de la section du développement de la composante police MONUSCO. Il ajoute que depuis 25 ans de présence de la mission onusienne en RDC, l'UNPOL continue de soutenir la réforme de la police nationale congolaise. Cependant, il reste encore du chemin à parcourir. Mahamadou Tangara est l'invité de ce journal et s'entretient avec Gisèle Cage.
Mahamadou Tangara, bonjour.
Bonjour Gisèle.
La composante UNPOL de la MONUSCO joue un rôle essentiel dans la stabilisation et la sécurité de la RDC. Si nous pouvons évaluer la partie développement 25 ans après, depuis la présence de la mission onusienne en RDC, comment évaluez-vous l'impact de vos actions sur le terrain?
L'actuelle configuration même de la PNC, c'est à l'œuvre de la composante UNPOL. Vous voyez les appellations, la configuration des structures de la police, tout ça, ça a été fait en collaboration avec UNPOL. L'UNPOL a considérablement appuyé à travers la réforme de la police nationale congolaise qui fonctionne conformément aux standards et normes reconnus au plan international et l'adoption de la police de proximité comme nouvelle approche fonctionnelle. Ça, c'est à l'œuvre de l'UNPOL. Et la réforme est reflétée par la configuration actuelle de la police nationale. Organe de commandement, organe de contrôle et organe consultatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le commissariat général, ça c'est un organe opérationnel de la police. L'organe de redevabilité, ça c'est l'IGPNC. L'organe consultatif, ça c'est le secrétariat permanent du conseil supérieur de la police. Toutes ces configurations, c'est dans le cadre de la réforme et c'est l'UNPOL qui a considérablement investi pour que ça puisse être aujourd'hui. Ensuite, parlant de la bancarisation des policiers, présentement, les salaires des policiers sont virés dans des comptes bancaires. Donc ça, c'est toujours dans le cadre de l'appui conseil que nous avons pu quand même appuyer, sensibiliser, faire des plaidoyers pour que les autorités de la police puissent vraiment bancariser fonctionnaires de police. Ensuite, la prise en charge annuelle même de la SOLI. La SOLI, c'est une stratégie opérationnelle d'appui à la lutte contre l'insécurité. Okay. C'est une stratégie qui a été mise en place par l'UNPOL depuis 2014 et qui est appuyée par l'UNPOL, surtout au nord Kivu et à l'Ituri. Donc cette solide fonctionne avec l'appui de la composante police UNPOL à travers la prise en charge en carburant, la donation des véhicules pour qu'ils puissent vraiment être efficaces dans la protection des civils. Et depuis 2014 jusqu'à maintenant, nous avons débloqué plus de 2 500 dollars pour l'appui à cette structure. Et chaque année, nous débloquons les 150 000 dollars pour l'appui de cette structure et présentement dans la zone du nord et sud Kivu où nous évoluons. Également, pour que la police puisse être autonome dans sa formation, nous avons quand même réhabilité, construire et équiper des écoles de Kasangoulou et Jules Moukabé et la construction des cuisines de Lakapol et d'améliorer les cartes de travail du personnel dans le centre de formation. Parallèlement à ça, nous avons appuyé l'élaboration des textes de cadre légal et réglementaire de la PNC, dont le plus récent est la loi de programmation de mise en œuvre de la réforme de la police 2025-2029.
Et dans le cadre du développement, quels sont l'impact de vos actions sur le terrain?
La protection des civils, ça c'est pratiquement l'impact de ce développement-là. La réalisation des infrastructures-là et la formation. Et la formation, on en a fait beaucoup, surtout dans le cadre des violences sexuelles. De mai à octobre 2024, nous avons formé plus de 6 889 policiers, dont 445 personnels féminins. Donc c'est pour vous dire que la mission de l'UNPOL pour ce qui concerne le développement, c'est un processus qui continue.
Plus d'un Congolais pense qu'il y a encore un grand travail à faire. Dans la réforme, on voit un peu la manière dont la police se comporte. Il y a plusieurs cas d'abus signalés, notamment au cours des marches pacifiques, la répression. Oui. Il y a encore un grand travail à faire de ce côté-là aussi.
La structure de l'IGPNC, l'Inspection Générale de la Police Nationale, travaille nuit et jour pour essayer de réprimer ces actes-là. Et tous ces actes qui sont rapportés à cette structure sont immédiatement pris en charge. Comme je vous l'avais dit, la réforme c'est un processus et nous continuons à travailler pour que ça puisse être réduit. C'est ça l'objectif que nous nous sommes fixés et c'est ça que nous sommes engagés aux côtés de la PNC pour que ce changement puisse être visible partout. Donc on a même mis en œuvre un numéro vert pour que les citoyens puissent vraiment appeler pour dénoncer des cas
d'abus
qui existent. On a du chemin à faire, mais on ne se lassera jamais de continuer à appuyer pour ces changements-là.
Le chemin est encore long.
Le chemin, c'est encore long.
Mahamadou Tangara, merci.
Voilà, c'est sur ces explications de la police des Nations Unies que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Pele Kipela Mondo, à Jude Bilanda et à Dieudonné Nyangasa. Excellente journée à tous.